Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy!
Allô, allô! Bienvenue en ce Lobster 38.0. Cette semaine, le sourire est encore et comme toujours au rendez-vous, donc que demander de plus? Du beau temps? Pas besoin. Marcher sous la pluie froide en souriant, perdu dans ses pensées, me suffit. On prendra le temps plus chaud quand il sera là. En attendant, on se garde le cœur au chaud. Écoute The Magician, vous aurez sans doute reconnu la musique qui est jouée dans l'épisode 6 de la saison 1. À ce moment, Alice et Quentin, deux des personnages principaux qui sont en première année d'études de la magie, comme les autres, passent des épreuves. Et c'est là qu'on a la meilleure scène de la saison 1.
Je suis sûre que vous avez à présent compris que Break Bills nous apprend à aborder la magie avec ironie et malice. Mais pour cette épreuve, le sérieux est de mise.
Pour passer cette épreuve, vous devez vous mettre à nu en présence d'un autre adepte de la magie et lui montrer en toute honnêteté les forces intérieures qui vous gouvernent. C'est-à-dire votre moi véritable. Vous avez jusqu'à minuit. Le sort se fait à deux personnes. Les deux magiciens doivent réussir pour qu'il soit lancé. On doit s'attacher les mains avec cette corde, apparemment.
Je sens qu'il va me plaire, ce sort.
Le nœud se défera une fois atteint l'état de transcendance.
Ça doit être une espèce de blague, non? Ils veulent nous filmer nus, jouant à action ou vérité pour nous faire chanter.
Hélas, je crois que Margot était très sérieuse. C'est une pratique rare et assez peu orthodoxe, mais la magie occulte n'est pas un mythe. Et pour la pratiquer, impossible de tricher. Son essence même est d'ailleurs tout l'opposé. Ça fait pas partie du charme, mais ça devrait faciliter les choses.
C'est drôle, mais je m'étais dit que si je participais un jour nu à un rituel magique, je serais forcément dans une espèce de transe mystique.
Tu dis ça à une fille qui a perdu sa virginité complètement habillée.
Et pour la suite, il faut écouter la série. Moi, la musique m'a séduit, et le reste aussi. The Magician, épisode 6. Je classe ça dans mes scènes fétiches qui me font adorer une série. On m'a dit que sur ToutTV, les deux premières saisons en français sont disponibles, et en téléchargement, on peut ramasser jusqu'à la quatrième saison en français. C'est un plaisir à écouter, et ça bouge à vitesse grand V. On s'ennuie pas, et l'histoire est un beau mélange de magie, de fantaisie, d'époque actuelle, et de scènes comiques et amusantes. Maintenant, des nouvelles de l'espace. Cette semaine, un Canadien, David Saint-Jacques, est sorti dans l'espace avec une collègue astronaute. L'objectif était de faire des petites réparations autour de la station spatiale. Il y avait du câblage à ajouter sur le bras canadien, des batteries neuves qui ne marchent pas à changer, des choses du genre. De la maintenance de routine. Si on peut appeler routine le fait de flotter dans l'espace à 27 000 km/h. J'ai été voir une vidéo de sortie dans l'espace, pas nécessairement celui de Saint-Jacques, lui je l'ai vu en direct sur mon heure de lunch. Non, j'ai regardé une autre vidéo qui se nomme « 2 minutes d'une vertigineuse sortie dans l'espace depuis l'ISS ». C'est quand même assez ouf. La caméra de l'astronaute nous montre ce qu'il voit. Il s'accroche en sortant de la station spatiale et sous lui, tu as la Terre, la grosse boule bleue, et l'homme ou la femme astronaute est au-dessus de ça dans le vide. J'imagine le moment d'émotion pour la personne. C'est impressionnant. Je viens d'aller lire les commentaires en dessous du vidéo, les commentaires de la NASA, et ça dit que l'astronaute était Randy Bresnik, puis qui a déclaré à propos de cette expédition.
Parfois, lors d'une sortie spatiale, il faut juste prendre un moment pour profiter de la beauté de notre planète Terre.
Mais l'épisode quand même des batteries à changer sur l'ISS qui ne marche pas me laisse à réfléchir. Quand on va être en route pour Mars, quand on va tomber sur de l'équipement qui ne marche pas, il va falloir être ingénieux pour trouver des solutions de rechange. Là, pour les batteries, c'est pas trop grave. Les batteries neuves qui ne marchent pas sont renvoyées sur Terre, on a remis les vieux modèles en place et dans une prochaine mission de ravitaillement, de nouvelles batteries vont être envoyées. Mais si on part pour Mars avec un aller-retour d'un an, il va falloir s'organiser avec ce qu'on a. Puis évidemment, c'est sûr qu'ils vont penser à mettre des pièces de rechange, mais à un moment donné, tu vas arriver au bout de ces pièces-là. Je sais pas vous, mais moi je suis quand même excité par toutes les annonces liées à la Lune. On dirait que tout le monde a le goût d'y retourner. On parle de mission dans quelques années. Il me semble que j'ai le goût de vivre ça. J'envie nos parents qui ont pu vivre les premiers pas de l'homme sur la Lune. Nous, on devrait vivre les premiers pas d'une femme. J'espère cependant qu'ils n'oublieront pas de mettre dans sa valise une combinaison à sa taille. Car je ne sais pas si vous avez entendu, mais on nous avait annoncé une première. Deux femmes qui sortiraient de la station spatiale en même temps. Tout le monde était content, mais non. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas deux tenues spatiales de taille moyenne pour les laisser sortir en même temps. Donc si possible, allez faire votre magasinage chez Space Depot la prochaine fois. Toujours dans ce sujet de l'espace, cette semaine est tombée la nouvelle « Le monde admire pour la première fois un trou noir ». Dans les séries de science-fiction, on les avait déjà vues, des espèces de tourbillons qui aspirent un peu n'importe quoi et duquel l'Enterprise ne doit pas s'approcher sous peine d'être détruit. Mais plus scientifiquement, c'est quoi au juste? Voici la description qu'on a donnée de cette première photo qui a été plutôt compliquée à obtenir.
Un disque violent de gaz tournant autour de l'horizon du trou noir, inexorablement attiré vers le centre. Éventuellement, ce gaz accélère jusqu'à la limite de la vitesse de la lumière et atteint une température de 100 millions de degrés. De chaque côté, des jets astrophysiques s'éloignant du trou noir, toujours à une vitesse à peine inférieure à celle de la lumière.
Donc, sur la photo, on voit une espèce de rond noir entouré d'un halo. Rien de bien excitant. La photo a pu être produite grâce à 20 télescopes répartis aux quatre coins du monde. En avril 2017, ils ont observé pendant 10 jours les environs du trou noir M87 qui est situé à 53 millions d'années-lumière de la Terre. M87 est 6,5 milliards de fois plus massif que notre Soleil et est situé au centre de la galaxie Messier 87 dans la constellation de la Vierge. La quantité de données qu'ils ont ramassées était si importante qu'elles ont dû être transportées par avion plutôt que par Internet. Il disait, avec autant de données, l'avion est plus rapide que l'Internet. C'est l'équivalent de 5000 ans de MP3 ou des autoportraits pris durant la vie de 40 000 personnes. J'ai été voir, j'ai validé, c'est 5 pétabytes de data. Un pétabyte, c'est quoi? C'est 1000 téra. Puis un téra, c'est quoi? C'est 1000 gigs. Donc, 5 pétabytes, c'est 5 millions de gigs. C'est quand même pas mal d'informations. Voilà, c'était juste pour vous dire que la science a fait un petit pas encore dans son objectif de mieux comprendre les choses. Et cette photo, elle a été en partie rendue possible grâce à Cathy Bowman, 29 ans, qui a écrit ou imaginé l'algorithme nécessaire pour traiter les données qui ont mené à cette image. Bien sûr, elle repartage le crédit de tout ça avec ses autres collègues, car oui, on s'imagine qu'il n'y a pas juste une personne là, qui est en charge de tout ça, qui avait une bonne équipe derrière tout ça, mais quand même, il y a une jolie photo d'elle qui circule où tu la vois toute impressionnée, les deux mains croisées sur la bouche alors que la photo s'affiche pour la première fois. Je ne sais pas si tout ça est stagé, mais c'est réussi.
Yeah, baby! Yeah. My tears have been used all on another love, my tears have been used
Petite nouvelle rapide pour ceux qui aiment le groupe Powerwolf que j'ai fait jouer un peu trop abondamment dans les derniers Lobsters. Eh bien, ils ont un nouveau spectacle disponible dans YouTube, un spectacle filmé le 29 mars 2019 en Russie. Je vous dirais qu'ils jouent toutes les chansons qu'on a entendues dans le Lobster. Donc, c'est un très bon spectacle à écouter pour ceux qui aiment ça. Moi, je l'ai regardé et c'était divertissant. Dans YouTube, ça se nomme Powerwolf Live Adrenaline Stadium Moscou. Et ce qui est surtout divertissant, c'est que le chanteur joue avec le public entre certaines chansons. Il fait des vocalises avec eux, vérifie s'ils connaissent la chanson. C'est amusant et toute la scène ressemble à un vieux château, eux habillés dans leur style de loup-garou gothique, évidemment. Voilà pour cette courte nouvelle. Cette semaine, au bureau, j'ai eu des formations. Une sur une méthode de gérer des projets, la méthode agile, Scrum plus spécifiquement, ça mérite pas que j'en parle. Et la deuxième formation, une méthode pour estimer le coût des projets. Ça, c'était le fun. Je vous en parle un peu. Dans mon travail, je suis habituellement impliqué lorsqu'arrive le temps de faire les budgets. C'est la période où on évalue ce qu'on va faire l'année d'ensuite et on demande les budgets pour ça. L'approche est simple, tu évalues ce qu'il y aura à faire et tu arrives avec un coût pour tout ça pour les gestionnaires plus hauts et eux vont aller chercher l'argent pour l'année prochaine. Bon, je résume évidemment. Mais là, la formation que j'ai eue est pour nous aider à faire un meilleur estimé du coût des projets. L'approche est différente cependant. À la fin, au lieu d'arriver avec le coût de ton projet, tu arrives avec une échelle de coûts. Ça te dit qu'au mieux, ton projet pourrait te coûter ça et au pire, il coûterait ça. Et c'est l'approche pour arriver à fournir ces bornes qui est intéressante. Au lieu d'y aller avec une approche déterministe où tu dis telle affaire va coûter tant, là tu travailles de façon probabiliste. Mais je vous donne un exemple tout de suite pour vous montrer la méthode. Un exemple simple pour illustrer la méthode, ça serait par exemple si on te demande d'estimer l'âge de Céline Dion. Voici comment tu procéderais avec la méthode. Bon, l'âge de Céline Dion n'a rien à voir avec un projet, mais c'est juste pour vous montrer comment évaluer une quantité qui pourrait être incertaine. Car dans des projets, souvent, tu n'as aucune idée comment ça va coûter telle affaire et des gens vont plutôt y aller en inventant un chiffre. Et c'est cette façon de faire qu'on ne veut pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un estimé de chiffre qui se veut le plus précis possible. Donc, revenons à Céline. Pour mon projet, j'ai donc besoin de connaître l'âge de Céline et j'ai pas accès à Internet, sinon mon exemple est mort. C'est pour illustrer un vrai projet où tu n'as pas toujours les réponses à tout pour faire ton estimé, mais tu connais certaines choses. Donc au départ, la méthode a dit que tu dois te donner des bornes qui sont absurdes. Donc mon hypothèse de départ va être que Céline Dion, elle a entre 0 et 1000 ans. Oui, c'est absurde. C'est notre point de départ, c'est ça qu'on veut. Ensuite, c'est là que la méthode embarque. On se pose des questions pour faire bouger ces bornes. Par exemple, je sais que la personne la plus vieille sur Terre a probablement 120 ans. Donc, c'est logique de penser que Céline n'a pas plus de 120 ans. Donc, la borne absurde que j'avais mise à 1000 ans, elle vient de descendre à 120 ans. Ensuite, on continue notre réflexion pour faire bouger les bornes. Quand j'étais jeune, je me souviens que Céline chantait déjà et qu'elle était plus vieille que moi. Bon. Donc, moi j'ai 45 ans, donc ça me permet de bouger ma borne inférieure que j'avais mis à 0. Je la monte à 45. Donc maintenant, on est rendu avec l'hypothèse que Céline a là entre 45 et 120 ans. Notre objectif, c'est de bouger les bornes tant qu'on peut, pour avoir un estimé sur son âge qui est fiable à 90%. Pour ma borne inférieure, je ne connais pas assez Céline pour pouvoir refaire bouger la borne. Donc, je vais laisser ça comme ça à 45 ans. Mais pour la borne supérieure, je ne suis pas mal sûr qu'elle n'a pas 120 ans. Peut-être René Angélil, feu est son homme, mais pas Céline. Mais je me souviens que Céline a chanté pour le pape au stade olympique durant les années 80 et qu'elle était encore adolescente ou jeune adulte à ce moment-là. Donc, pas plus de 30 ans, c'est sûr. Donc, prenons le pire. Je me dis qu'elle avait 30 ans et je pense que c'est dans les années 80, mais je ne suis pas sûr exactement. Donc, donnons-nous un petit peu de marge. Donnons-lui 30 ans en 1975. Ça, je suis pas mal sûr d'après ce que je sais. Donc, 30 ans en 1975, ça lui donnerait quoi comme âge aujourd'hui? 74 ans. Donc, mes bornes estimées sont maintenant que je pense que Céline a entre 45 et 74 ans. Et la méthode que je suis en train de suivre veut qu'on ait une bonne réponse dans 90% des cas. Donc, je peux bouger encore un petit peu mes bornes, mais pas beaucoup, car j'ai je connais pas beaucoup plus de choses sur Céline qui me permettent de les faire bouger de façon sûre. Donc, je bougerai pas ma bande de 45 ans minimum, mais pour le 74, je trouve que ça reste un peu vieux. Je vais donc me poser d'autres questions, pas nécessairement sur Céline parce que là, je suis au maximum, mais connexes, des réponses connexes qui vont me permettre de descendre ma borne à 65 ans. Pourquoi je descends là? Car 65 ans, c'est l'âge de la pension, de la retraite, et je suis sûr que si Céline avait atteint 65 ans et aurait eu droit à sa pension de vieillesse, on en aurait entendu parler à la TV. Donc, je me sens, je suis très à l'aise de descendre à 65 ans. Et même plus, je vais aller jusqu'à 60 ans. Le 60 ans, c'est là que mon rôle d'estimateur a un peu embarqué, où je me dis, ben, je peux descendre jusqu'à 60 ans. Je prends un petit peu de risque, mais pas tant que ça. Donc, allons voir son âge maintenant. Fait que mon hypothèse finale, c'est que Céline Dion a entre 45 et 60 ans. Donc, si je regarde son âge, ils disent, elle a 145 ans. Ah, c'est un vampire, merde. Donc, la méthode ne fonctionne pas avec les vampires. Non, sans blague, Céline Dion a 51 ans. Bon, on est direct dans mon estimé. Donc, si on revient à un projet, après avoir fait cet exercice sur un projet que vous aviez à estimer, vous arriveriez à la fin en disant « Mon projet va me coûter entre 700 000 $ et 3 millions, par exemple. » Selon ce que je sais, selon les connaissances qu'on a, moi, les spécialistes qui ont fait l'estimé, on arrive à vous dire que votre projet va vous coûter ça, c'est entre 700 000 et 3 millions. Donc, un peu comme on a fait avec Céline Dion, on arrive à la fin en disant « Céline Dion avait entre 45 et 60 ans ». Puis notre réponse, on est sûr à peu près à 90% qu'elle est bonne. Maintenant, c'est au patron d'aller chercher l'argent pour son projet. Il sait qu'au final, son projet ne devrait pas lui coûter moins que le coût de notre borne inférieure ou plus que notre borne supérieure. Donc, chez Desjardins, on ne fonctionne pas encore comme ça partout. Les formateurs me disaient qu'ils ont environ 300 personnes de formées et que c'est une nouvelle culture à implanter. Donc, ça va prendre du temps, mais je trouvais quand même ça le fun de vous parler de cette méthode probabiliste pour évaluer tes projets. L'avantage de fonctionner comme ça avec cette méthode, c'est très impressionnant. Durant la formation, avant d'avoir suivi le cours, le formateur nous avait fait faire des estimés et on arrivait à 40% de bonnes réponses dans nos estimés. Ensuite, on s'est mis à appliquer la théorie apprise et on n'a jamais eu en bas de 90% de bonnes réponses dans nos estimés. Ce que ça prouve, c'est que de fonctionner comme ça, ça donne des estimés qui sont valides dans 90% du temps. Et nos résultats concordent avec ceux de l'université qui a développé ça et qui l'a montré à 8000 personnes dans différents milieux. En général, tu arrives à 90% de bonnes réponses. Bien sûr, il y a des exceptions. Il nous disait qu'il y a des gens qui sont juste pas bons pour estimer et ceux-là, eh bien, quand tu vois qu'ils se trompent tout le temps, tu leur fais faire autre chose. Voilà, on part en musique et au retour, je vous raconte mon aventure de retour de formation. Et oui, la formation se donnait au bureau, donc j'ai quitté la maison pour le centre-ville. Et le soir, disons que pour revenir, ça a été plutôt problématique. Mon retour à la maison. Ouf, après ma formation, je me rends heureux, insouciant, trépignant, prendre mon train. Je m'assois avec une jolie personne qui est seule et je commence à écouter un épisode de The Magician dont je vous parlais en début de podcast. Pour moi, c'est la routine, je sais que je suis dans le bon train et je suis parti dans mon émission. Mais là, grésillement, j'entends jaser. Je retire donc mes écouteurs et j'entends dans les haut-parleurs du train.
Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan.
Bon, c'est peut-être pas exactement ça que j'ai entendu, mais ça annonçait rien de mieux. C'était le contrôleur de train qui nous disait qu'un gros camion venait de heurter un viaduc. Et manque de chance, notre train passe sur ce viaduc. Donc, comme la structure du viaduc a peut-être été endommagée par le choc, on doit attendre qu'un ingénieur vienne évaluer tout ça. Donc, le train est retardé. Mais pas de stress, moi je retourne à mon épisode 6 que je passe en boucle sur mon laptop. Je suis bien assis. Car oui, les wagons de train faits par Alstom et Bombardier sont très confortables. On n'a pas à se plaindre. Mais après un certain temps... Oui, le grésillement est de retour. Donc, j'enlève mes écouteurs pour entendre la voix.
Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez! Il a dit que vous l'avez tué!
Non!
Luke, il n'y a plus de frites à la cantine. Luc, je t'ai pris rendez-vous chez le coiffeur.
Non!
Luc, j'ai trouvé une femme.
Non!
Luc, tu as été circoncis.
Non!
I am your father. Luc. Attends, j'ai oublié.
Bourguignon, cuisine de pays pardi,
du bœuf mariné,
de savoureuses petites pommes de terre
et ses carottes fondantes.
Non!
Donc, si on résume le message, aucun train ne va pouvoir partir de la gare Lucien Lallier. On doit prendre le métro, faire un petit tour pour se rendre plus loin que le viaduc maudit. Et là, on va pouvoir prendre un train qui nous attend. Donc, début de l'aventure. Quand tu annonces ce genre de choses aux gens qui sont assis dans les 4 ou 5 trains qui attendaient de partir et dont la moitié doivent aller chercher leur enfant à la garderie, c'est le début d'une aventure. Je sais pas, on doit être entre 300 et 400 personnes qui débarquent du train, prennent le souterrain vers le métro. Moi, je suis la vague. Heureux, vivant et trépignant. Dès qu'on arrive au métro, ça bloque. On est beaucoup trop. En plus, on est indiscipliné. On bloque le chemin pour ceux qui essaient de sortir à notre station. Après deux rames de métro qui passent, je réussis à embarquer dans une. Mais j'ai aucune idée où je vais. Ça importe peu. J'ai juste le goût de faire un tour. À un moment donné, durant mon tour, je décide que je débarque. Un androïde qui me suit débarque aussi. Appelons-le R2-D2. Mais R2-D2 apprendra bien assez vite qu'il ne faut pas me suivre. Moi, je suis pas pressé et je fais un tour. Donc, peu importe où se trouve cette station dans la galaxie, je me dirige vers la carte qui indique où on peut aller. Mon suiveux, R2-D2, s'inquiète. Il voit bien que c'est pas une bonne idée de me suivre. Vif comme un Wookiee, il repart en courant pour rembarquer avec les autres. Nos chemins se séparent donc à jamais. De mon côté, je fais le point. L'étoile noire est là, et moi ici. Si je veux avoir une chance de retourner à la maison, je dois rembarquer dans mon TIE Fighter et me rendre deux stations plus loin, dans la même direction que le suiveux. Donc, j'embarque dans mon TIE Fighter, qui malheureusement ne va pas très bien, et comme R2-D2 n'est pas resté avec moi, je ne peux pas compter sur lui pour la réparation. Donc, tant bien que mal, je réussis à me rendre à destination, la gare Vendôme. C'est de là que les prochains trains vont partir. Mais, pendant que j'attends dehors, la voix qui nous a précédés nous dit
« Mon allié est la Force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure. et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre.
Bon, j'ai pas senti la force, ça sentait plus le monde serré qui ont chaud et qui sont tannés, mais le train est finalement passé, et comme on était l'équivalent de deux trains à essayer d'entrer dans un, ça a encore été une belle expérience. Le train a rapidement manqué de place, et moi, pas pressé, heureux et trépignant, je me suis ramassé dans l'escalier menant au deuxième étage du train, où bien sûr j'ai attendu debout de me rendre chez moi. Mais croyez-vous que l'histoire allait vraiment se terminer ainsi? Eh bien non, il se trouve que dans l'escalier où je prenais place, j'étais directement en face d'un gros poster de Passepartout. Donc tout le long du voyage, je me suis amusé à fredonner les chansons de Passepartout. Et comme personne autour de moi ne voulait faire de jeu de main, vous savez le genre de jeu que les enfants font en fredonnant des chansons et en se tapant dans les mains, eh bien, vu que personne ne voulait jouer avec moi, cela fait que l'aventure va ainsi se terminer par une simple chanson de Passepartout dans ma tête.
Quelque chose à dire,
papa, on va t'écouter, chut, 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 chut.
Je connais quelqu'un qui parle tout bas.
Oui, 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 on t'écoute, oui, 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 oui.
Tout bas, tout bas, tout bas, tout bas.
J'ai quelque chose à dire, quelque chose à dire.
Papa, on va t'écouter, chut, 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 chut.
Je connais quelqu'un qui parle lentement.
Oui, 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 on t'écoute, oui, 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 oui.
Lentement,
j'ai quelque chose à dire, quelque chose à dire.
Papa, on va t'écouter, chut, 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 chut.
J'aime un homme.
Oui, 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 on t'écoute, oui, 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 oui.
J'ai oublié.
Je connais quelqu'un qui veut parler, mais qui a tout, tout oublié.
Une grosse nouvelle cette semaine, plus grosse à mon avis que notre photo un peu moche du trou noir. La nouvelle disait une nouvelle espèce humaine découverte aux Philippines. Quand même, souvent on entend dire qu'une nouvelle espèce végétale ou animale a été découverte. Mais là, une nouvelle espèce humaine. Donc, des chercheurs ont annoncé mercredi avoir découvert une nouvelle espèce humaine qui vivait sur l'île de Luçon, aux Philippines, il y a plus de 50 000 ans.
L'analyse de 13 fossiles, les dents, les phalanges de pieds et de mains, fragments de fémur, trouvés dans la grotte de Calao et appartenant à au moins 3 individus, dont un enfant, ont conduit ces scientifiques à considérer qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce qu'ils ont nommée l'Homo luzonensis. Elle présente à la fois des éléments aux caractères très primitifs ressemblant aux australopithèques et d'autres caractéristiques plus modernes proches de ceux des Homo sapiens. Cet Homo luzonensis était probablement petit, si on en juge par la taille de ses dents. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour l'affirmer selon les chercheurs. Cette nouvelle espèce, qui n'est pas un ancêtre direct de l'homme moderne, serait une espèce voisine, contemporaine d'Homo sapiens, mais avec un certain nombre de caractères primitifs. Deux des fossiles analysés ont été datés directement par la méthode des séries de l'uranium et sont âgés respectivement de 50 000 ans et de 67 000 ans. Il s'agit des plus anciens restes humains connus aux Philippines, précédant les premiers Homo sapiens datés de 30 000 à 40 000 ans, mis au jour sur l'île de Palawan au sud-ouest de l'archipel.
Et là, l'article indique que des débats sont à prévoir. Je vous évite les détails, mais cette nouvelle espèce avait des petites molaires, donc des petites dents. Les os du pied ont aussi une morphologie très surprenante. Donc, aux yeux des chercheurs, les résultats de l'étude montrent très clairement que l'évolution de l'espèce humaine n'est pas linéaire. Elle est plus complexe qu'on ne le pensait jusqu'à récemment. Donc, pour eux, il s'agit d'une découverte remarquable qui va sans aucun doute susciter beaucoup de débats scientifiques. Voilà, c'est déjà ma dernière intervention dans ce Lobster. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Et si vous voulez me contacter pour connaître la station pour visiter l'Étoile Noire, juste m'écrire via le site Facebook du Lobster. Bonne semaine! Et petit défi pour se laisser, je vais faire jouer 20 riffs de chansons heavy metal. Essayez de voir combien vous arrivez à deviner de chansons sur les 20 qui vont jouer.
attendez, je vous reconnais. Vous êtes la boniche qui nettoie les pioles.
J'étais. Il y a eu du changement.
Du changement ?
De la promotion. Figurez-vous que je viens de passer intendante.
Vous êtes plus boniche, alors ?
Disons qu'il y a boniche et boniche. Vous avez la connasse de base, sans ambition, sans avenir. Et puis, vous avez l'intendante.
Je sais même pas ce que c'est, moi.
Ce que je peux vous dire, c'est que d'après mes nouvelles consignes, par exemple, je suis responsable de la gestion des stocks de vivres.
Les stocks de vivres ?
C'est moi qui garde le tas de bouffe. Et je vous annonce tout net que les collations de 2h du matin, vous pouvez faire une croix dessus.
Mais vous pouvez pas faire ça, il y a outrage !
Outrage à quoi ?
Mais je suis chevalier, vous ne pouvez pas m'interdire de bouffer !
Mais je vous interdis pas de bouffer pendant les heures de repas ! Seulement, vous êtes un poil en avance. Le petit déjeuner est servi dans 6 heures.
Dans 6 heures ? Mais comment voulez-vous que je tienne 6 heures ? Avec quoi ? Dans 10 minutes, je tombe dans les pommes !
Ah, mais rien ne vous empêche de vous constituer un stock personnel, dans votre chambre, avec des produits que vous achetez vous-même.
Oui, mais pour cette nuit, j'ai rien prévu !
Pas un croûton de pain ne sortira du stock en dehors des heures de préparation de repas !
Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans ? Sire, enfin vous arrivez pour me sauver !
Vous sauvez de quoi ?
De l'hypolipémie !
De là ?
J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux.
Mes hommages, sire.
Tiens, mais vous êtes pas la boniche qui fait les pions d'habitude ?
Comme j'expliquais au seigneur Caradoc.
C'est cette machine-là qui s'est mise en tête de bloquer la bectance ! Faites quelque chose ou je vais tout bousiller là-dedans !
C'est une précaution militaire. En cas de siège, il faut pouvoir tenir un mois complet.
En cas de siège ?
Ah, mais fermez-la deux secondes, non !
Mais il n'y en a pas de siège, pauvre con !
Oh, sire !
Non, mais ça va bien, non ?
J'en ai rien à foutre ! Assassin ! Assassin ! Assassin !
Non, mais moi, je vous reproche pas de faire votre boulot. Simplement, la bouffe, c'est un sujet sensible, surtout pour certains.
Sire, moi, j'applique ce qu'on me dit d'appliquer. Je vous répète plus les consignes.
Non, mais ça va, vous allez pas me répéter jusqu'à demain. C'est bon, je le connais, le coup du siège.
Oh, bah, si vous me dites que ça tient plus, hein ?
Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça tient plus, évidemment, il faut faire attention, on sait jamais.
Ah, vous voyez bien ?
Oui, mais c'est pas un bout de saucisson qui va faire la différence en cas de siège.
Le seigneur Caradoc se prépare 4 collations par nuit.
Le seigneur Caradoc, il t'emmerde.
Chacune équivalente à un repas pour 3 personnes. À ce rythme-là, c'est pratiquement...
Non, mais je sais, c'est bon, simplement, Caradoc, c'est spécial.
Ah, mais moi, j'applique les consignes.
Non,
hein.
Mais je sais, vous appliquez les consignes, c'est bon. Alors continuez à les appliquer, simplement, pas pour le seigneur Caradoc.
Ah bon ?
Voilà.
Eh ouais. Tu vois où tu peux te les carrer, tes consignes ?
C'est vous, seigneur Caradoc ?
Non, c'est le seigneur Léo Dagan.
Mais qu'est-ce que vous faites ?
Comment ça, qu'est-ce que je fais ? Il voit bien que je boulotte un bout de saucisse.